Vous écoutez le studio Kalangou. Bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour cette édition en français présentée par Rahilat Soumana. Au sommet de cette édition, après l'attaque hier de Guesskérou dans la région de Diffa, attribuée à Boko Haram, l'heure est au bilan avec le gouverneur de la région dans un instant. Le décret d'application de la loi sur le sida au Niger a été adopté en Conseil des ministres du 6 janvier dernier. Vous entendrez dans ce journal un conseiller juridique du programme de lutte contre le sida et un acteur de la société civile. Enfin, comme chaque dimanche, la partie magazine sera consacrée à un condensé de l'actualité nationale et à marquer la semaine qui s'achève. Deux morts et trois blessés, c'est le bilan officiel d'une attaque perpétrée dans la nuit de vendredi à samedi dans la commune de Guesskérou, région de Diffa. Le gouvernorat de la région attribue cette attaque à la secte Boko Haram. Sur place, le calme est revenu, c'est ce qu'explique le gouverneur de Diffa. Monsieur Lawali Dandano Maman était joint ce matin au téléphone par Hamadou Moumouni.
C'est juste parce que nous sommes dans une dynamique, une vague des éléments de VH qui sont en train de déposer les armes et cette situation est en train de le désorganiser. Ce n'est juste qu'un dernier barreau d'honneur. Ils savent qu'ils ont perdu leur vie. Ils sont en train de faire les derniers mouvements. Cette situation, elle est maîtrisée déjà. Ils ont voulu venir faire une diversion. Malheureusement, ils ont pris à leur défense. Nous, ici, au niveau de Diffa, on est en train de gérer la situation parce qu'on est en train de recevoir un nombre important d'ex-éléments, on va dire, ex-éléments de la secte Boko Haram.
Vous les estimez à combien jusque-là?
C'est une centaine. Vous voyez, ça fait mal quand même à un ennemi. Ils sont désorganisés, ils sont aux abois et voilà pourquoi ils sont en train de vouloir réagir.
C'est des jeunes Nigériens ou bien des Nigériens?
En majorité, malheureusement, ce sont nos compatriotes, c'est des Nigériens, la communauté nigérienne.
Hier, vous étiez dans le camp de repenti. Qu'est-ce que vous leur avez dit comme message?
Régulièrement, moi, je parle là-bas pour voir leurs conditions de vie. Et j'ai trouvé qu'ils étaient là, ils étaient satisfaits. Ils sont très contents vraiment de l'accueil qui est fait. Et ils sont dans un camp qu'on appelle camp du repenti qui sera ici. Après, ils seront bientôt relocalisés dans un camp là où on va procéder à la déradicalisation ici à leur intention professionnelle.
C'était Lawali Dandano, gouverneur de la région de Diffa. Le Conseil des ministres du 6 janvier dernier a adopté le projet de décret d'application relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du virus de l'immunodéficience humaine VIH. La première loi est intervenue en 2007 et est abrogée par celle de 2015 en tenant compte de certaines difficultés d'application rencontrées précédemment. Qu'est-ce qu'un décret d'application de loi ? Réponse avec Kassoum Ibrahim, conseiller juridique au programme national de lutte contre le sida de Niamey.
Un décret d'application permet d'appliquer les dispositions d'une loi. Maintenant, c'est des principes que la loi pose. Pour que ces principes-là soient traduits sur le terrain, il faut qu'on ait des textes d'application qui vont dire aux acteurs chargés donc de l'application de cette loi-là comment est-ce que vous allez vous y prendre pour appliquer ces dispositions d'ordre général. Dans le cadre de ce décret d'application, il a été précisé que la prise en charge elle est gratuite et globale et concerne deux aspects, notamment par exemple la prise en charge médicale. Le décret a cité qu'est-ce qui est gratuit. Le deuxième aspect de cette prise en charge globale, c'est la prise en charge psychosociale. Il y avait beaucoup de déperdition par rapport aux gens qui faisaient leurs tests et qui étaient séropositifs, qui étaient stigmatisés dans la société. Il fallait leur faire un accompagnement psychosocial. Il y a également aussi un certain nombre d'aspects qui n'ont pas été clarifiés, notamment en matière de prise en charge des infections opportunistes. Quels sont les examens biologiques et prise en charge en matière d'hospitalisation, les médicaments et autres que l'État compte assurer gratuitement aux personnes vivant avec le VIH. Donc tout cela doit être clarifié.
Les acteurs associatifs qui luttent contre le sida se réjouissent et félicitent tous ceux qui ont contribué pour l'adoption de ce décret d'application de la loi relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du VIH. Selon Boubou Mamoudou, coordinateur de l'Observatoire communautaire pour l'accès aux services de santé, c'est l'occasion de remédier aux insuffisances de la précédente loi. Nous l'écoutons.
C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, le défi, c'est que comment faire en sorte que cette loi soit appropriée par tous les acteurs, les autorités politiques, sanitaires et surtout les personnes concernées, c'est-à-dire les patients. On avait vu une loi en 2007. On a vu des insuffisances à ce niveau. on a constaté que souvent la personne est violentée ou bien ses droits sont piétinés, l'agent de santé a fait quelque chose qui n'est pas correct. Mais dès lors qu'on commence à déclencher le processus pour aller vers la justice, la personne démissionne parce que l'environnement est hostile. Dieu merci, c'est moins compliqué. Aujourd'hui, nous avons des conseils juridiques dans toutes les régions qui peuvent aider ces personnes en cas de difficulté pour qu'ils soient accompagnés jusqu'à ce que ça aboutisse. Nous avons déjà un volet qui concerne le droit et devoir des patients. Eh bien, l'occasion pour nous aussi de divulguer cette loi pour que la population puisse comprendre.
À Maradi, la direction régionale des enseignements secondaires a entamé depuis quelques jours une opération de redéploiement des enseignants pour leur gestion efficiente. En effet, plusieurs établissements souffrent d'insuffisance de professeurs, surtout en philosophie et en anglais. Explication avec le directeur régional des enseignements secondaires, Illo Bija, au micro de Mohamed Maman.
Les professeurs de philosophie et les professeurs d'anglais, c'est vrai, c'est des denrées rares. Et ce qui fait que, bon, actuellement, les professeurs que nous avons, en tout cas dans beaucoup d'établissements, ils dépassent leur volume horaire réglementaire. Et on est obligé, en tout cas, de leur demander de faire ce saut-là pour que l'ensemble des classes arrivent à être couvertes par ces deux disciplines-là. Toujours est-il que dès que nous avons des affectations au niveau national qui viennent, automatiquement, nous les redéployons là où vraiment il y a des professeurs qui sont sollicités pour qu'ils puissent être un peu allégés dans leurs tâches. Ici, au niveau du Maradi, nous n'avons pas tellement de difficultés en professeur de sciences parce que nous avons une université des sciences qui est là, qui nous fournit ces professeurs-là parce qu'il y a des étudiants terminalistes qui postulent pour le contrat. Vraiment, ça, une bouffée d'oxygène pour notre gestion en ce qui concerne les matières scientifiques.
Propos recueillis par Mohamed Maman depuis Maradi. Jeunesse africaine face aux défis du panafricanisme, c'est le thème d'une conférence publique organisée par l'African Union Students Council, AUSC. Cette rencontre a eu lieu ce matin dans l'enceinte de l'École des mines de l'industrie et de la géologie, EMIG, présidée par Sanusi Tambari Jaku, conseiller spécial du président de la République. Alors, pourquoi le choix de ce thème? Bawa Ahmed Tijani, président national du bureau AUSC, répond au micro de Moutari Mohamadou.
Cette organisation s'est fixée un certain nombre d'objectifs, un certain nombre de missions qui vont de l'essence de faire en sorte que l'ensemble des étudiants africains qui sont au niveau de la diaspora, ceux-là qui sont en Afrique, soient impliqués pleinement dans la gestion des affaires publiques. Au-delà de cette mission, nous nous sommes sentis de la nécessité à ce que nous puissions libérer l'Afrique du joug colonial, à ce que nous puissions libérer l'Afrique de la domination occidentale, puisque nous nous sommes dit que c'est la seule et unique condition qui pourra permettre à l'Afrique vraiment de développer son économie, de développer son éducation, de développer sa politique. Alors, le thème que nous avons choisi dans le cadre de cette première activité de AUSC à Niamey, c'est la jeunesse africaine face aux défis du panafricanisme. Après la conférence, il y aura une formation sur la vie associative et le leadership. L'idée, c'est quoi? C'est d'amener les étudiants à comprendre la nécessité à ce qu'on puisse revenir sur l'esprit panafricain. Voilà pourquoi nous avons choisi ce thème-là, pour expliquer clairement, avec transparence et clarté, qu'est-ce que le panafricanisme et quelles sont les missions fondamentales qui sont assignées à cette jeune organisation panafricaine.
Du sport au football dans ce journal, la 8e journée de la phase aller du championnat national Ligue 1 a débuté avant-hier vendredi ici à Niamey, où la rencontre de l'AS FAN et Jangolzo FC s'est soldée par 2-1 en faveur de l'AS FAN. Hier samedi à Niamey, l'Olympique FC a gagné 1-0 face à l'AS Douane et l'AS Nigelec s'est incliné devant l'USGN avec 2-0. Toujours hier, mais à Arlit, la rencontre à Kokana face à Sahel a fait 2-3 et Urana FC contre l'AS Police 1-0. Le point sur la CAN 2017, les matchs du jour dans le groupe A. Ce soir, le Cameroun affronte le Gabon à la Libreville et la Guinée-Bissau sera opposée au Burkina Faso à Franceville. Hier, dans le groupe D, le Ghana a battu le Mali 1-0, gagnant ainsi son ticket pour les quarts de finale. L'autre rencontre a vu la victoire de l'Égypte contre l'Ouganda 1-0.
Studio Kalangu. à Niamey.
Sur la radio alternative
99.4 FM.
Et sur la radio Ampani
100 FM. À Minisorwa.
Sur la radio Mangari
95.1 FM. À Birningaouri.
Sur la radio Maraba
95.1 FM. À Dolbel.
Sur la radio Goriol FM
95.1 FM. À Saï.
Sur la voie de la Tapoa
99 FM. À Mayaï.
Sur la radio Anouri
99 FM. À Tamaski.
Sur la radio Mourière Karkara
98 FM. À Bouza.
Sur la radio Takarkara
99 FM. À Magaria.
Sur la radio Kitari
101.5 FM.
Studio Kalangu, au rythme du Niger.
Studio Kalangu.
Place à présent à la partie magazine de ce journal. La partie magazine de cette édition est consacrée à la rétrospective de l'actualité de la semaine. La rétrospective de l'actualité, c'est dans une présentation de Hamadou Momoni.
L'actualité cette semaine, c'est ces interpellations à Niamey de plus d'une trentaine de personnalités par la police judiciaire. Selon les sources policières, ce sont des agents de l'Office de produits vivriers du Niger, OPVN, mais aussi des personnalités politiques comme l'ex-ministre Ada Chefou et des opérateurs économiques comme Ali Abdourahmane, El Hadj Chebou et El Hadj Chaouta. Ces interpellations ont été effectuées sur requête du procureur de la République dans le cadre du dossier dit du riz japonais, une affaire de malversation qui remonte à 2005. Le gouvernement et les organisations humanitaires ont lancé lundi le plan de réponse humanitaire 2017 pour le Niger. 1,5 million de personnes sont considérées comme vulnérables du fait de l'insécurité alimentaire, de la malnutrition, des épidémies, des inondations et des déplacements forcés. Les 340 000 sont de la région du Difa. L'argent à mobiliser est estimé à 136 milliards de francs CFA, dont la moitié pour Difa. Sur le choix de Difa, le ministre de l'Action humanitaire, Lawal Magaji, s'explique.
C'est lui qui bouge, qui ne sait même pas où est son domicile et se déplace parfois, elle laisse tous ses biens derrière. Il faut qu'on l'assiste en eau, hygiène, assainissement et en alimentation. Donc c'est pourquoi donc l'essentiel de ces fonds va venir en appui à la région de Difa.
Difa, où la sécurité n'est pas totalement revenue, rien que dans la nuit du vendredi au samedi, des éléments de Boko Haram ont attaqué un camp de forces de l'ordre dans la commune de Guesskirou. Le gouverneur de Difa, loin d'être préoccupé, dresse le bilan.
On a perdu deux éléments, on a blessé. Cette attaque, je pense que c'est juste parce que nous sommes dans une dynamique. Une vague des éléments de VH qui sont en train de déposer les armes. Cette situation est en train de le désorganiser.
Au front social, ça tiraille entre le ministre des Finances et le syndicat des agents des impôts, SNAI. Le SNAI parle d'indifférence des autorités à l'égard de sa plateforme revendicative. Chafiu Abdou du Ben SNAI parle ici du manque des moyens pour travailler.
Nous d'abord, avant d'être syndicalistes, on est des agents des impôts. Comment est-ce que, par exemple, une direction qui n'a pas du carburant pendant des longs mois pour fonctionner et que cette même direction a fait toutes les démarches administratives pour qu'elle ait ce carburant-là, elle n'arrive pas à l'avoir. Les agents qui sont là, comment ils vont?
Ailleurs, la une, c'est la Gambie. Le président sortant, Yahya Jammeh, refuse de céder le pouvoir au président élu, Adama Barrow. Mais au finish, les présidents guinéens et mauritaniens ont pu le convaincre de céder sa place en évitant ainsi un recours à la force avec la CEDEAO. Le 45e président élu des États-Unis a été investi dans ses fonctions vendredi. La prise de pouvoir de Donald Trump suscite beaucoup d'inquiétudes en Amérique et dans le reste du monde. En marge de l'événement, des manifestants opposés à sa politique ont cassé des vitrines et du mobilier urbain dans les rues de Washington. Le lendemain, plus d'un million de manifestants ont défilé dans les grandes villes américaines pour dénoncer son programme et son discours. N'oubliez pas aussi que votre studio, le studio Kalangu, a fêté son premier anniversaire mercredi dernier. Les programmes du studio Kalangu sont basés sur une information factuelle, neutre et rigoureuse.
Avant de clôturer cette édition, voici un rappel des titres. Après l'attaque hier de Guesskirou dans la région de Difa attribuée à Boko Haram, le gouverneur de la région de Difa a dressé un bilan et le décret d'application de la loi sur le sida au Niger a été adopté en conseil des ministres du 6 janvier dernier. Vous avez entendu dans ce journal un conseiller juridique du programme de lutte contre le sida et un acteur de la société civile. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.
Suivez les programmes du studio Kalangu partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangu.
J'aime et je partage.